Donc ce soir, nous accueillons Elisabeth Dufourcq. Malheureusement, c'est dommage, mais le livre qu'elle vient d'écrire n'existe pas encore de telle sorte qu'on puisse le tenir entre nos mains.
Oui,
son titre définitif sera « L'invention de la loi naturelle ». Alors le titre qu'on avait donné à la conférence était peut-être un peu plus alambiqué parce que c'était l'occasion pour Elisabeth Dufourcq de montrer que dans la période qui précède justement le grand moment de Thomas d'Aquin, qui est un grand tournant dans l'histoire de la théologie et de la pensée de l'Église, il y a eu une effervescence scientifique et peut-être des ouvertures qui ont été refermées. Mais c'est peut-être elle qui nous l'expliquera. Et donc, ma foi, je vous laisse la parole et on est ravis de
Merci
vous accueillir.
Beaucoup. Merci voilà. beaucoup. Eh bien, souvent les découvertes se font par hasard, et c'est à l'occasion d'une indignation que j'ai eue sur l'exploitation, l'instrumentalisation d'une notion de loi naturelle que j'ai été obligée de retourner beaucoup plus dans le passé que je ne le croyais, et je me suis focalisée sur le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, le second Moyen-Âge, c'est-à-dire le XIIIe siècle, et je me suis aperçue que ce Moyen-Âge portait en germe quantité de nos compréhensions et de nos incompréhensions. Donc, je vous invite, si vous voulez, bien à faire ce voyage dans le temps et focalisons l'année 1244. 1244, pourquoi cette année 1244, cet automne 1244? Parce que Saint-Louis, notre grand Saint-Louis, Louis IX, a été malade et il se remet, il est là juste à côté, au Louvre, on pourrait le croire tout près de chez nous. Puisque je m'approprie la propriété de leur adresse. Et nous voyons que pour fêter, si je puis dire, le fait qu'il va mieux, qu'il est guéri, et que grâce à sa guérison, il va partir en croisade, on montre sa guérison dans ce manuscrit que je vais vous faire passer, qui est très intéressant parce qu'on voit donc Saint-Louis malade, on voit le médecin, voyez-vous, le médecin qui invoque on ne sait pas quoi, la science, un médecin qui visiblement n'est pas un chrétien, il ne porte pas un chapeau chrétien, il porte plutôt une kippa, ou c'est un médecin juif ou un médecin arabe, mais on le représente... c'est pas du tout un homme d'église. Et il a ses petites fioles, bref, il n'arrive à rien. Et on voit Blanche de Castille, bien sûr, qui présente une croix à Saint-Louis. Et surtout, ce personnage, c'est Guillaume d'Auxerre. Guillaume d'Auxerre qui bénit Saint-Louis, qui lui présente une croix. Et par la grâce de Dieu, Saint-Louis va être guéri et fait le vœu de partir en croisade. Donc vous me direz, quoi de moins scientifique que cela? En fait, il y a une valeur apologétique dans cette image. On veut montrer que la médecine est impuissante, finalement, mais que Dieu sauve et que Saint-Louis, qui a fait le vœu de partir en croisade, a été guéri de par son vœu. Or, c'est très paradoxal parce que le personnage qui est là, Guillaume d'Auxerre, est un très grand savant de son temps. C'est un homme qui est évêque de Paris, qui est évêque de Paris, qui passe pour être un peu alchimiste, mais qui lit Maïmonide et dans des traductions qui ont été faites à Tolède au siècle précédent et dans des traductions. Il est aussi hébraïsant lui-même et il lit beaucoup Averroès. Donc c'est un homme extrêmement complet qui a un esprit scientifique déjà très développé pour son temps. Donc, j'allais dire que cette image est une image qui récupère la pensée chrétienne, mais qui ne tient pas compte des véritables talents scientifiques de Guillaume d'Auxerre. Alors, comment expliquer ce qui s'est passé autour de ces années 1230-1270, où on voit d'abord une sorte de foisonnement, de bouillonnement de pensées que je dirais pré-scientifiques, et ensuite une fermeture à partir de 1270. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas spécialement une période où il y a de très nombreuses inventions scientifiques à ce moment-là. Ce qui est les grandes inventions scientifiques, comme le moulin à eau, comme le trait, sont plutôt des inventions techniques. À cette époque-là, on réfléchit beaucoup. Les questions scientifiques qu'on se pose sont des questions sur la vision et sur le temps, c'est-à-dire sur les illusions d'optique, c'est très intéressant, et sur le calendrier, sur le temps, la façon de marquer le temps, on en reparlera tout à l'heure. Mais cette période-là n'est pas intéressante spécialement par les inventions, mais par la modification très importante de l'esprit scientifique. C'est-à-dire, c'est l'introduction tout à fait passionnante du doute scientifique, alors que jusqu'à présent, on vit sur des acquis très très différents. Alors, je pense que pourquoi connaissons-nous si mal cette période si foisonnante? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu une focalisation, en particulier dans la tradition catholique, et surtout depuis le XIXe siècle, depuis le Concile de Trente et depuis le XIXe siècle, sur la pensée de saint Thomas d'Aquin, qui, elle, a été éditée très souvent. Éditée, ça veut dire traduite, éditée en latin, n'est-ce pas? Et ensuite, traduite plusieurs fois en français. Vous avez plusieurs éditions traduites de la Somme théologique, plusieurs éditions d'une immense œuvre. L'œuvre de saint Thomas d'Aquin est immense, mais d'autres œuvres ont été non moins immenses. Je pense que vous n'avez pas tellement entendu parler des œuvres de Hugues de Saint-Victor, des œuvres de Alexandre de Halès. Le couvent de Saint-Victor se trouvait à peu près à l'endroit de l'Institut du monde arabe. De Alexandre de Halès, qui était un savant anglais, qui s'est fait franciscain à 50 ans et qui a été à la fois un grand théologien, un grand philosophe et un grand aussi un grand scientifique pour son temps. Vous n'avez peut-être pas entendu autant qu'il le faudrait parler d'un très grand esprit très puissant qui est Albert le Grand. Bien sûr, vous connaissez la place Maubert, et il est vrai que Albert le Grand avait un tel succès que de temps en temps il était obligé d'enseigner dehors. C'est pour ça qu'on l'a appelé cette place Maître Albert, cette place Maubert. Du reste, on l'appelait déjà en son temps Maubert, de façon familière. Il était non seulement savant, mais aimé. Donc, pour connaître la pensée de ces hommes puissants, eh bien, il faut avoir le courage de se remettre au latin. J'ai eu la chance d'avoir un merveilleux professeur qui, du reste juif, qui m'a remis sur pied l'horrible latin que j'avais eu pendant toute ma scolarité, et je me suis replongée dans ce latin qui n'est pas très difficile, mais enfin quand même il faut s'y mettre. Et alors vous avez à l'Institut catholique de splendides livres de Albert le Grand, de splendides livres, c'est très bien édité, mais en latin, il faut quand même s'y mettre. D'autre part, il faut aussi, étant donné que les citations de ces hommes et même de Thomas d'Aquin je veux dire les références de tous ces grands scolastiques qui travaillaient à Paris ou à Oxford, du reste. Oxford était extrêmement important, de même que Naples à cette époque-là. Eh bien, pour comprendre la pensée, pour comprendre en profondeur la pensée de ces scolastiques, il faut comprendre ce qu'ils citent. Et ce qu'ils citent, on voit qu'il y a encore toute une autre période qui est très très inconnue ou très mal connue, parce que là, il ne suffirait pas de se remettre au latin, il faut se remettre au grec. C'est toute cette période hellénistique qui va, au fond, depuis, grosso modo, la mort d'Alexandre le Grand, dont Aristote, comme vous le savez, avait été le maître, n'est-ce pas ? Depuis la mort d'Alexandre le Grand en 328 avant Jésus-Christ, grosso modo, jusque vers 529, c'est-à-dire, plus 529, c'est-à-dire la fermeture de l'école d'Athènes par Justinien. Et cette période hellénistique est extrêmement importante. Elle a une actualité capitale, me semble-t-il, parce que quand on y retourne, on comprend ce que nous avons en commun comme méthode de pensée, comme scolastique, comme dialectique, comme rhétorique, dans les trois monothéismes chrétiens, et même parmi les chrétiens dans la tradition grecque et la tradition latine, juifs, chrétiens et islam. Pourquoi ? Parce que nos scolastiques latins ont puisé leurs références dans cette période hellénistique très mal connue, dont ils ont retrouvé, actualisé des thèmes qui leur sont venus des Arabes à partir de 1085, au moment où Tolède a été reprise. Deux dates à retenir, 1085, prise de Tolède, 1236, prise de Cordoue, qui était à ce moment-là la plus grande ville européenne du temps. Prise par les chrétiens, oui. Tolède est prise par les chrétiens, les rois chrétiens en 1085. C'est le début d'un foisonnement de traduction, ou plutôt de diffusion de traduction dans l'Europe jadis considérée comme barbare par les Byzantins. Et puis, en 1236, prise de Cordoue, mais entre les deux, il y a eu une très grande osmose, on va en reparler. En 1236, Cordoue est prise aussi par les chrétiens. Où en étais-je ? Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces références communes... cette arrivée de la philosophie grecque via les Arabes, pendant cette époque-là, a été pour les chrétiens, pour les écoles cathédrales, puis les universités, puisque c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu d'abord des écoles autour des cathédrales, avant qu'il y ait des universités autonomes. Eh bien, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que si les latins, les scolastiques latins, les parisiens, disons, ou les gens d'Oxford, ont été si passionnés par la scolastique arabe, qui leur venait des Arabes, c'est que d'une certaine façon, ils étaient déjà en capacité de l'accueillir. Ce n'était pas deux façons de penser très différentes. Et ils avaient déjà été, si je puis dire, formés par une scolastique qui leur était venue depuis la décomposition de l'Empire romain. Et cette scolastique-là est très appauvrie, mais très vénérée, si je puis dire, les avait déjà, d'une certaine façon, préparés à accueillir ce qu'ils ont lue par les, ensuite par les traductions arabes. On arrive à bien accueillir que, Pasteur disait, le hasard ne favorise que les esprits préparés, ben de même, les grands écrits ne peuvent être accueillis que par des esprits déjà préparés. Donc la querelle qui consiste à dire, la querelle d'érudits, hein, entre parenthèses, qui consiste à dire « Ah oui, mais telle partie d'Aristote a été connue par les Arabes ou a été connue par les Latins », ça n'a aucun sens. En réalité, les deux courants ont convergé. Et dans les années, justement, 1231 exactement, je vous dirai pourquoi cette date est importante, et 1270, il y a eu, justement au moment de la convergence de ces deux courants, un foisonnement extrêmement intéressant. Alors, la question qui se pose est de savoir pourquoi, in fine, ce foisonnement a été probablement par crainte, par peur, et je vous dirai pourquoi, encadré, sinon étouffé, dans les années 1270-1277. Il y a eu à ce moment-là des condamnations. Donc, vous voyez, nous allons commencer par voir ensemble le courant de la connaissance des Grecs via les scolastiques latins, ceux dont on parle pas si souvent que cela. Eh bien, je vous ai dit l'importance de la culture hellénistique. Ça formait vraiment un socle commun à toutes les civilisations qui gravitaient autour de la Méditerranée. Il faut revenir, pour le comprendre, à la conférence qu'a donnée Philippe il y a quelques semaines, n'est-ce pas, où il parle d'Aristote et de Platon, n'est-ce pas. En réalité, on a dans la tête Aristote, observateur, organisant les sciences selon des catégories qui permettent de voir la dimension, la matière, la couleur, le rayonnement, etc., définissant dans l'observation. Et on voit aussi Platon, les idées pures, les mathématiques qui descendent du ciel, etc., la musique des sphères, enfin, voilà ce qu'on a comme cliché, si l'on peut dire. En réalité, pendant toute cette période hellénistique dont je vous ai parlé, il y a eu une osmose des deux philosophies. Et l'Aristote que nous avons, qui se transmet au monde romain, puis au monde médiéval, du haut Moyen-Âge, qui se croit encore romain très longtemps, les intellectuels du haut Moyen-Âge se sont crus romains, ils parlaient latin, ils parlaient... Eh bien, c'est un Aristote platonisé. C'est-à-dire que, finalement, les catégories d'Aristote sont devenues... se sont, d'une certaine façon, quelquefois sclérosées au point de devenir d'avoir le statut d'idée pure, d'intangibilité. Par exemple, ça n'a finalement pas grand-chose à voir entre... Enfin, il n'y a pas grand-chose à voir entre les citations qui sont données par ces scolastiques et le véritable Aristote. À l'époque dont je vous parle, en 1240-45, les scolastiques se servent de répertoires, de très grands répertoires qui sont enchaînés au sens propre du terme dans les bibliothèques, où il y a par thème des citations des différents philosophes. Ce qui fait qu'ils font référence à un Aristote à la fois très vénéré, mais aussi un Aristote très réduit. De même qu'à l'Église, on a les 52 dimanches qui n'ont pas changé depuis le début du christianisme, on n'a pas l'Évangile tout entier. On a des textes des citations très, très réduites dont on se sert un peu pour tirer, comme un puzzle, pour tirer la meilleure dentelle possible. Eh bien, qu'est-ce qu'on a comme... il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a la méthode que l'on croit scientifique à cette époque-là, ou que l'on considère comme scientifique à cette époque-là, c'est-à-dire pour instruire les esprits dans le domaine des sciences, et puis il y a d'autre part les résultats. Alors, la méthode a été transmise par le grand Boès. Boès, vous savez, ministre de Théodoric, qui écrivait dans ses bibliothèques devenues légendaires, avec des lambris de marbre et d'ivoire. Eh bien, Boès avait sauvé ce qu'il avait appris à l'école d'Athènes, et il a eu le mérite de traduire en latin ce que tous les latins cultivés depuis Cicéron, grosso modo, pensaient souvent en grec. On pense que César parlait souvent grec, Cicéron parlait souvent grec, en tout cas Marc Aurèle n'écrivait qu'en grec, son médecin Galien n'écrivait qu'en grec, et Boès a traduit en latin. Mais il a traduit Aristote en latin, mais il a traduit, si je puis dire, des abstracts qui venaient déjà de deux écoles qui se trouvaient à Rome, qui ont eu une influence considérable, l'école de Plotin d'abord, et puis l'école de Porphyre. Ce sont des gens qui sont extrêmement intéressants. Pourquoi ? D'un point de vue philosophique et d'un point de vue scientifique. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, du très très grand empire romain, eh bien, quelqu'un comme Plotin a travaillé aussi à Alexandrie. À Alexandrie, on a des contacts beaucoup avec l'Inde. Et de même que Porphyre, ont des contacts avec cet empire romain qui va très très loin dans les civilisations. Et ce qu'ils ont de commun avec ce qu'on pourrait dire aujourd'hui d'hindou, c'est cette configuration du monde en sphère. Si vous voyez la rosace de Notre-Dame de Paris, eh bien, ça ressemble à une mandala d'une certaine façon, voyez-vous. C'est-à-dire que pour aller vers Dieu, il faut avoir des élévations successives, depuis ce qu'ils appellent le plus ignoble, c'est-à-dire la matière brute, jusqu'à Dieu. Et pour les vertus consistent à s'extraire de la matière pour en penser en forme et pour s'élever vers les idées les plus abstraites possibles. Il y a 9 degrés pour aller vers le plus abstrait et le plus proche de Dieu. Eh bien, Boès s'inspire de Plotin et de Porphyre, et puis il dresse pour tout le Haut Moyen-Âge les sept arts libéraux dont nous avons pratiquement actuellement encore l'héritage, c'est-à-dire 3 années où l'on apprend à parler, la grammaire, la dialectique, la rhétorique, et puis 4 autres années où on apprend les choses sérieuses et les choses qui durent, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la musique. À ce moment-là, il faut bien comprendre que pendant tout le Haut Moyen-Âge, on étudie ensemble la physique et la métaphysique. C'est-à-dire, la métaphysique, c'est pas au-dessus de la physique, c'est ce qu'il y a derrière la physique, métaphysique. On dit que ce mot vient d'Aristote, en réalité on sait très bien que c'est pas Aristote qui a inventé ce mot métaphysique, même si vous voyez des livres, la métaphysique d'Aristote, C'est un de ces commentateurs plus tardifs qui a mis dans un même livre ce que Aristote mettait après la physique. C'est-à-dire que je regarde par exemple cette colonne, là, qui est dans le fond, je vois sa physique, la lumière, sa hauteur, sa couleur, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a par derrière? Et qu'est-ce que cette colonne me dit sur la traversée des apparences, voyez-vous? Qu'est-ce que c'est qu'être? Pourquoi cette colonne est? Voilà. Qu'est-ce que je suis? Voilà. C'est donc, qu'est-ce qu'être? Quelle est la différence entre être et exister? Enfin, c'est tout ce qui est au-delà de la physique. Dans l'héritage que transmet Boès, il y a aussi tout ce monde qui est un monde gréco-égyptien, qui est le monde de Ptolémée. Vous savez que Ptolémée, le système de Ptolémée géocentrique, Ptolémée était né en Basse-Égypte et mathématicien, et il a travaillé en Haute-Égypte. Non, il était né en Haute-Égypte, pardon, et il a travaillé en Basse-Égypte. Et en regardant dans des puits, il avait vu que on ne voyait pas les étoiles de la même façon. Exactement, compte tenu de la distance kilométrique, il avait compris que la Terre était ronde et il avait même été capable de comprendre la circonférence de la Terre. N'empêche qu'il pensait que la Terre était au centre du monde. Voilà le système qu'on avait. Et en plus, ça marchait. Ça marchait, c'est-à-dire qu'avec ça, on pouvait faire un calendrier, on pouvait très bien prévoir des comètes, etc. Donc après, s'il y a eu des esprits qui ont mis ça en doute, on a pensé que c'était une catastrophe de mettre en doute cet ordre du monde. Vous voyez à quel point actuellement, même dans des bandes dessinées pour enfants, on montre comment le monde tourne, et si le monde cesse de tourner, c'est très grave. Donc quiconque change l'ordre du monde et quelqu'un qui met un grain de sable dans le système. Il faut bien comprendre ça, que l'ordre des saisons a toujours été, du reste, même en Chine, très lié au pouvoir d'abord et ensuite à la morale. Du point de vue de la médecine, l'ordre que transmettait le système dans lequel était Boès, c'était le système de Hippocrate et le médecin de Marc Aurèle, Galien, fondé sur un axiome absolu, c'est-à-dire la nature ne fait rien en vain. Et in fine, la nature est bonne. Il y avait une sorte de sacralisation de la nature. Mais de quelle nature parlait-on? Parce que on avait tendance à cette époque-là à mettre en enfer tout ce qui venait de la tradition qu'on appelait la tradition épicurienne ou atomiste, qui parlait plutôt du désordre naturel, qui parlait Lucrèce, par exemple, qui avait connu la peste en Attique, parlait de la nature qui était à la fois mère et marâtre. Eh bien, Lucrèce n'est pas étudié pendant le Moyen-Âge. On pense que les épicuriens sont des débauchés, n'est-ce pas? On les diabolise. Les épicuriens n'étaient pas ça du tout. C'était des gens, au contraire, qui avaient l'intuition de l'atome. Vous voyez, donc un système, Philippe avait parlé la dernière fois à propos d'Aristote, d'un système assez conservateur, et là c'est un système immuable. Puisque le côté conservateur d'Aristote, qui dit par exemple qu'il va de soi que les femmes sont un être achevé par rapport à l'homme, etc., que c'est dans la nature des choses, que chez les animaux c'est la même chose, etc., eh bien, ce système assez conservateur d'Aristote, disant que les esclaves doivent rester dans leur fonction d'esclaves, les femmes comme des femmes, etc., eh bien, est devenu un système assez figé, il faut bien dire. Ceci d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, c'est un un Aristote de répertoire qu'on a. Tout cela est très marqué aussi par la pensée augustinienne, c'est-à-dire le croit pour comprendre, crede ut intelligas. Et il ne faut pas croire que ce crede ut intelligas soit une marque d'obscurantisme, non. On le retrouve vraiment dans les trois monothéismes, on le retrouve en islam, on le retrouve chez Maïmonide, c'est-à-dire que on pense que s'il n'y a pas une idée de transcendance, eh bien, l'esprit s'égare, l'esprit ne fonctionne pas dans la direction de la sagesse. Les contenus du savoir hellénistique dont je vous ai parlé, du savoir romain, du savoir antique, mais c'est grandement un savoir hellénistique, ont été d'autre part compilés à la fin, au moment de, à la fin des invasions barbares, à Séville. À Séville, par Isidore de Séville, qui était un compilateur, qui tient son importance du fait qu'il a essayé de sauver justement une grande partie du savoir antique dans des étymologies qui sont quelquefois absurdes, souvent absurdes, mais qui sont mémorisables, facilement mémorisables. Par exemple, la femme s'appelle Eva, mais comme elle est catastrophique, c'est Eva, ça va avec Ave qui est Ave Maria, mais ça va aussi avec V, la malédiction, voyez-vous. Donc, voyez-vous, en jouant comme cela sur les mots, il a eu une œuvre considérable et en poids, si je puis dire, et par le fait qu'il a été recopié, de même que Boès, dans tous les monastères bénédictins du temps. La fonction de copiste était une fonction capitale à cette époque-là, et une fonction quasi-liturgique, il ne fallait pas changer un iota, n'est-ce pas ? Donc, mettez-vous bien dans l'esprit de ce qu'on croit, mettons au début du XIIe siècle, ce sur quoi on travaille. Les références du début du XIIe siècle, eh bien, sont des références en contenu. C'est Isidore de Séville, grosso modo, c'est le compilateur. Et puis, en méthode, c'est grosso modo... pour aller très très vite, hein, c'est à bout de 7 lieues, mais enfin quand même, c'est Boès. C'est Boès, le père Chenu, qui est un grand dominicain, a parlé de l'aetas boétiana, l'âge de Boès. Et ça, c'est, voyez-vous, cette façon de penser, ce qui est intéressant au début du XIIIe siècle, c'est que tout d'un coup, avec la multiplication des échanges, l'enrichissement des marchands, eh bien, on voit que ce type de savoir sort du monde ecclésiastique. On voit des encyclopédies, en particulier celle d'un certain Gossuin de Metz, qui est très passionnante à voir, parce que c'est illustré, qui montre ce système du monde armillaire. Vous voyez, armilia, ça veut dire le bracelet en latin, c'est-à-dire, vous voyez, ces sphères qui ont différents bracelets. Il ne faut pas changer la nature, surtout pas, la nature ne fait rien en vain, ceux qui vont contre la nature sont des insensés. Et mais ce Gossuin de Metz, c'est très intéressant parce que c'est un clerc, ça n'est pas un prêtre, il y a de très nombreux clercs qui ne sont pas des prêtres, mais il s'adresse plutôt à la classe des marchands. Et il dit, c'est-à-dire que ce savoir commence à se laïciser. C'est extrêmement intéressant de voir, il écrit d'abord en vieux français, en France. Et il a des diffusions énormes pour le temps, puisqu'on a, nous avons encore 60 manuscrits de Gosselin de Metz, n'est-ce pas ? Il faut dire qu'à cette époque-là, un livre écrire un grand livre, ça suppose d'abord de tuer un troupeau de moutons. Hein. Ça suppose le travail du copiste, ça suppose le travail de l'enlumineur. Je vous conseille d'aller à Londres actuellement voir une magnifique exposition de livres enluminés qui donne une idée de la richesse de ce qu'étaient les livres de ce temps, n'est-ce pas ? Dans les bibliothèques, ils étaient enchaînés, tout le monde ne pouvait pas les voir. Grosso modo, on pense qu'un livre coûtait à peu près l'équivalent d'une voiture de course ou d'un petit studio, voilà, derrière. Un livre, c'était quelque chose, c'était plus qu'un bijou, c'est bien, beaucoup plus qu'un vêtement, enfin voilà. Et déjà, les vêtements riches coûtaient des fortunes. Eh bien, c'est dans ce monde-là que nous avons une première époque qui précède le XIIIe siècle, où les premières vagues de connaissances des Arabes. Ces premières vagues de connaissances des Arabes, on le voit, on les rencontre surtout dans le monde normand qui vient d'être christianisé, c'est-à-dire dans la région, puisque les Normands ont envahi l'Angleterre en 1066, Guillaume le Conquérant, mais possède aussi la Normandie, et sont de grands conquérants qui vont jusqu'en Sicile. Et en Sicile, ces conquérants qui ont l'esprit entièrement novateur, ne sont pas encombrés souvent de tels préjugés, des préjugés dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de cette connaissance qui devient une connaissance d'archétype, eh bien, dans ce monde-là qu'il y a une grande liberté. Saint Anselme du Bec et Loing, qui est en Normandie, qui vient certes du Val d'Aoste, mais lui commence à se poser la question de la raison et de la foi. Et c'est très, très intéressant parce que c'est la première fois qu'on se pose véritablement la question. On voit un certain Adélard de Bass, dont on parle peu, mais qui transpose Euclide. Il y a le fameux Abélard, qui, devant un foisonnement maintenant de documentation qui arrive et par les Grecs et par les musulmans, pose la question à ses élèves, sic et non. C'est-à-dire qu'il a appris par ses répertoires qu'Aristote a dit ceci, mais il apprend par d'autres manuscrits qu'Aristote a dit autre chose, et ou bien il a appris que saint Basile dit quelque chose, mais que tel autre saint dit le contraire, donc le sic et non. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça donne un espace à l'esprit critique, un espace qui n'existait pas avant. On peut réfléchir. Arrive notre XIIIe siècle. Notre XIIIe siècle où, pendant tout le début du XIIIe siècle, le grand personnage, le personnage le plus important politiquement, ça n'est pas Saint-Louis, c'est l'empereur Frédéric II. Frédéric II a été couronné à Palerme en 1198, l'année de la mort d'Averroès, et c'est un esprit arabisant, il parle cinq langues, l'arabe, le grec, l'allemand, l'italien, le français, le latin bien évidemment. Et il s'entoure aussi bien de savants d'origine anglo-saxonne, puisque c'est le... souvent l'érudition vient d'Angleterre à cette époque-là, c'est lui qui envoie ses savants pour aider à faire des traductions, soit à Tolède, soit autour de Cordoue. On voit autour de lui un Pierre d'Irlande, par exemple, qui va être le maître en sciences naturelles, in naturalibus, de Thomas d'Aquin. Et ce Pierre d'Irlande, on le retrouvera aussi dans des controverses avec les Juifs en Italie. On voit près de lui un Michel Scott qui passe aussi pour alchimiste et qui a passé de nombreuses années à Tolède et qui a été aussi un des commentateurs d'Aristote. Alors imaginez cet Aristote, comment est-il venu cet Aristote à Tolède et à Cordoue? C'est là où maintenant nous allons prendre la deuxième aile, si je puis dire, de l'arrivée du savoir antique dans le monde occidental, qui est l'aile arabe. Et là, il faut faire un énorme voyage, encore un autre voyage, en 529, quand Justinien ferme l'école d'Athènes. Un certain nombre de néoplatoniciens de l'école d'Athènes s'exilent d'abord en Asie mineure, puis reviennent à Athènes, puis repartent, etc. Il y a de très nombreuses traductions qui sont faites par des chrétiens nestoriens ou par des chrétiens monophysites, c'est-à-dire qui ne considèrent pas que le Christ est Dieu, et qui finalement vont être très vite tout à fait plus en phase, si je puis dire, avec la religion musulmane. Ils pensent à un Dieu tout-puissant plutôt qu'à un Dieu incarné, totalement incarné. Et c'est par ces traductions grecques que la scolastique de la fin de l'école d'Athènes, qui est un Aristote très platonisé, va être transposée d'abord dans le nord de la Perse par un certain Al-Farabi, dont très connu dans le monde musulman, mais que les latins appelleront Al-Faribus, et qui sera très connu dans le monde parisien parce qu'il aura écrit un livre des causes, Hortus Scientiarum, c'est-à-dire Hortus, ça veut dire la racine des sciences. Donc, Al-Faribus ou Al-Farabi, comme Boès, délimite le savoir dans des catégories qui sont extrêmement voisines du trivium et du quadrivium. Il y a les sciences faites pour convaincre, c'est-à-dire la grammaire, la langue, la rhétorique, la logique, tout ça est très grec, et puis ensuite les mathématiques, l'astronomie, la musique, et puis la physique qui est aussi une métaphysique. Voilà, physique et métaphysique. Donc d'un côté et de l'autre, on retrouve d'une certaine façon la même chose. Mais il faut dire que du côté musulman, persan, souvent il y a eu des réflexions et un développement de cette philosophie d'Aristote qui a été beaucoup plus marquée qu'elle n'a été dans le monde barbarisé qui était soumis à de très nombreux bouleversements. Ils ont la même chose, ils ont le monde de Ptolémée, la même chose, ils l'appellent l'Almageste, Almagista, c'est-à-dire, et c'est connu, ce sera connu comme cela dans le monde latin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce rationalisme musulman qui se développe se heurte quelquefois au soufisme, c'est-à-dire au mysticisme, qui pense que l'existence, le monde, le rapport à Dieu ne s'explique pas uniquement par la raison. Ce rationalisme passe par, j'allais dire, par osmose ou par dans tout le monde musulman. Il arrive en Espagne au moment où la branche dissidente des califes de Damas s'installe en Espagne, et c'est comme ça qu'on le retrouve à Cordoue à la fin du XIIe siècle, et en particulier avec ce grand génie qu'est Averroès, qui est un commentateur extraordinaire de tous les livres d'Aristote, mais un commentateur en arabe. Vous imaginez le grec qui est écrit de gauche à droite, retraduit de droite à gauche, puis retraduit de gauche à droite, etc., puis retraduit ensuite, après la prise de Cordoue par les latins, retraduit en latin. Vous imaginez les déformations qu'a pu prendre Aristote à ce moment-là. Quelle est la différence, quand même, la différence religieuse capitale entre ces traductions d'Aristote et les trois monothéismes? C'est que pour Aristote, le monde est éternel. Il y a un intellect commun à tous, n'est-ce pas? De même, c'est pour l'Aristote platonisé du monde hellénistique, le monde est éternel. Il n'y a pas véritablement d'intelligence particulière. Du reste, quelquefois, on retrouve cela dans des écrits à bon marché, n'est-ce pas, que l'on retrouve un petit peu partout. Il n'y a pas d'intelligence particulière. Après la mort, on retrouve l'intelligence unique, etc. Et ça, aucun des trois monothéismes ne peut accepter ça. Pour les trois monothéismes, les religions du livre, le monde a été créé. On pense à ce moment-là qu'il a été créé en 550 avant Jésus-Christ, 5500 avant Jésus-Christ, pardon, j'ai oublié un zéro, et qu'il aura une fin qu'on attend, et ça, c'est, il n'y a pas non plus d'intellect séparé. N'empêche que, quand on va voir nos latins réfuter Averroès, ils vont réfuter ça d'Averroès, et ils vont prendre ça. N'est-ce pas? Quand on voit la pensée de Thomas d'Aquin, qui écrit un contrat contre les Averroïstes, en réalité, ses emprunts à Averroès, ses citations d'Averroès, ses citations d'Aristote citées par Averroès sont infiniment plus nombreuses que ses réfutations. Dans le monde juif, en particulier chez Maïmonide, on retrouve grosso modo ce même système de pensée rationaliste avec de très nombreuses références à Aristote. Mais alors, quelque chose de très intéressant sur l'allégorie. Surtout, ne pas tomber dans l'allégorie et dans les fausses analogies. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir une très grande importance dans la réflexion pré-scientifique. Maïmonide va arriver à Paris, les traductions de Maïmonide vont arriver à Paris surtout dans les années 1230, et va apporter cette réflexion. Mais Maïmonide lui-même est très contesté dans le monde juif. Pourquoi ? Parce que il y a une façon dans le monde juif qui est très intéressante de réfléchir sur l'exégèse des textes, qui est très très différente de la façon aristotélicienne. La façon aristotélicienne est très souvent déductive, n'est-ce pas, soit à partir des catégories, soit dans un Aristote platonisé à partir de grandes idées, n'est-ce pas, on déduit et on crée une sorte de dentelle le plus solide possible à partir de déductions. Dans le monde juif, il y a un travail sur les textes qui est beaucoup plus d'induction, c'est-à-dire que, pour prendre un exemple, vous lisez tout saint Paul. Eh bien, vous ne prenez pas un petit bout sur saint Paul a dit ceci sur les femmes, ou saint Paul a dit ceci sur il n'est d'autre fondement si ce n'est Jésus-Christ. Vous cherchez quel est si je puis dire, l'arrêt, quel est le plus important dans saint Paul? Si vous voyez un petit peu, par exemple, dans un nuage de points, vous cherchez là où il y a la plus grande densité. Si vous voyez des courbes de Gauss, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont fait de la statistique, mais vous cherchez le sommet de la courbe, c'est-à-dire quel qui est le plus important. Et vous allez de sommet de courbe en sommet de courbe. C'est très différent de... Les Juifs ont toujours été beaucoup plus proches de ce point de vue-là, de ce que sera la pensée d'un Pascal, la pensée probabiliste d'un Pascal. Voyez-vous, c'est à partir d'une plus grande densité de probabilité dans la vérité que l'on arrive à cerner la vérité. Par exemple, on voit un Ahamadide qui va avoir de l'importance aussi, qui s'oppose à Maïmonide parce qu'il dit par exemple, vous refusez les allégories, par exemple les mains de Dieu, etc. Mais est-ce que derrière ce sens des mains de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire? Vous comprenez, il ne faut pas refuser par principe toutes les allégories. Donc, aussi bien dans le monde arabe que dans le monde juif, une méfiance à l'égard de trop de rationalisme. Alors, que se passe-t-il dans notre XIIIe siècle? Eh bien, je vous ai parlé de Frédéric II, l'empereur. Comme par hasard, on voit que quelques-uns des très grands esprits de ce début du XIIIe siècle viennent du monde de Frédéric II ou du monde de l'ancien monde normand. Albert le Grand, c'est un Allemand. Albert de Lauingen, il est né dans le Haut-Danube, le nord du Haut-Danube, un endroit où il y a des influences byzantines aussi par le Danube. Et son père a été un grand féodal de Frédéric II, c'est-à-dire que ce sont des gens, d'abord qui, avec l'empereur, ont leur connaissance par la chasse, par la guerre, par nécessité vitale, un très grand sens de l'expérience, de l'expérimentation. Beaucoup des progrès qui vont être faits dans ce monde vont être dus à des gens très peu connus maintenant, mais qui sont des ingénieurs militaires. On va en retrouver à Paris, du reste de ce type d'esprit qui se fiche pas mal des catégories d'Aristote, qui se moque complètement des tsars libéraux ou autres, mais qui demande les recettes de cuisine des bonnes femmes pour soigner les malades, qui demande aux artisans comment font marche un levier, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important de voir qu'il y a dans tout ce monde où l'esprit arabisant de Frédéric II est marqué, un esprit d'expérimentation. Albert le Grand va arriver à Paris, du reste pour passer son doctorat de théologie, envoyé par son ordre, qui est l'ordre des Dominicains, mais avec un bagage d'Aristote, d'un Aristote qui vient de Sicile et qui est très développé dans le monde de Frédéric II. Son élève préféré, qui arrive justement dans cette année 1244 que j'ai focalisée, c'est le jeune Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin est un jeune homme à cette époque-là qui arrive de l'université de Naples. Il a passé son enfance comme oblat, c'est-à-dire apprenti moine, mais pas destiné à être moine, au Mont Cassin. Il a eu une formation tout à fait classique, Boèce, Saint-Augustin, et Isidore de Séville, etc. Et puis il est jeté, pour des raisons politiques, par son père qui choisit l'université de Naples, où il va passer 5 ans, ce n'est pas rien, 5 ans entre 16 et 20 ans, 16 et 21 ans. Et là, il a eu comme professeur ce Pierre d'Irlande dont je vous ai parlé, ce Michel Scott. Et il arrive à Paris avec un bagage aristotélicien beaucoup plus fourni que les répertoires qu'on peut avoir à Paris. Et normalement, Thomas d'Aquin, si je puis dire, avait toutes les possibilités pour être j'allais dire, quelqu'un qui avait pour vocation d'ouvrir l'esprit à une formation scientifique encore plus libre que celle qui existait à Paris. Mais vous verrez tout à l'heure, en conclusion, qu'il n'en a rien été finalement. Ceci dit, Thomas d'Aquin, lui, ne sera jamais un scientifique comme Albert le Grand. Albert passe pour alchimiste, il est ingénieur, il fabrique des petits robots, il fabrique des automates. On dit qu'il a une vie du reste assez dissolue, on lui prête même une liaison avec la fille du roi de France, mais enfin bon, ça, n'importe quoi. Mais Thomas d'Aquin, lui, ne sera jamais scientifique. Alors que ceux dont je vous ai parlé, Averroès, je ne vous ai pas parlé d'Avicenne, on ne peut pas parler de tout, Al-Ghazali, Al-Farabi ont toujours été médecins de l'émir, lui, Thomas d'Aquin, ne sera jamais scientifique. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre le... Il n'y a pas que chez les dominicains, Albert le Grand et Thomas d'Aquin sont dominicains, mais dans le couvent des franciscains, qui existe encore, du reste, il y a encore le réfectoire, vous savez, du côté de l'école de médecine, l'école des Cordeliers, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez à cette époque-là, même un peu plus tard, Roger Bacon. Roger Bacon est un franciscain qui lui aussi a été laïque pendant longtemps, qui est un Anglais, qui a été formé en Angleterre par des esprits qui avaient déjà traduit des philosophes grecs. En particulier, on sait qu'il a été formé à ce fameux Adélard de Batz, dont je vous ai parlé, qui a traduit Euclide. Et il va être véritablement non seulement un scientifique pour son temps, un grand scientifique pour son temps, mais un esprit extrêmement libre. Pour vous le prouver, je suis obligée d'être un peu moins discursive et de vous lire véritablement quelques phrases de ces hommes, parce que vous pourriez dire que je vous raconte des histoires qui me plaisent, mais ces hommes n'avaient pas la puissance d'esprit que je leur prête. Alors, écoutez. Ce que Albert le Grand dit sur la mémoire, parce qu'après tout, la science, c'est la mémoire. Pour le thésaurus de science qu'on était habitué à se transmettre depuis Isidore de Séville, c'était un thésaurus de recopie, mais aussi de mémoire. Eh bien, que dit-il sur la mémoire ? Faire très attention. Ce trésor de mémoire, ce thésaurus, ne doit pas nous faire oublier qu'il ne faut pas considérer comme évidente ou naturelle une chose qui est mémorisée, même de longue date. Il faut, dit-il, premièrement, d'abord vérifier qu'il n'y ait pas confusion entre ce qu'on imagine ou ce qu'on a imaginé et ce qu'on croit savoir. Pour un scientifique, c'est très important de mettre en doute ce que l'on croit savoir. Et puis, faire attention entre ce qu'on croit savoir de mémoire et ce qu'on croit savoir, si l'on peut dire, d'ouï dire. Il faut s'assurer aussi que des préjugés ne vous ont pas été inculqués par le maître dès l'enfance. Parce que, dit-il, la marque d'un maître d'enfance est presque indélébile. se méfier des métaphores qui sont faciles à retenir mais qui souvent biaisent la vérité, se méfier aussi de ce que nous entendons dans la vie quotidienne sans y prêter attention, parce que des bribes de ce qu'on entend sont sujettes à caution et nous en faisons des amalgames, n'est-ce pas ? Il dit aussi qu'il est extrêmement important de rejeter tous les faux problèmes ou les problèmes posés à tort. L'important, c'est de savoir poser le problème. On n'imagine pas qu'au XIIIe siècle, on ait pensé de cette façon-là. Il y a des façons de poser le problème qui sont des manipulations de l'opinion. Par exemple, sur le droit naturel, on dit que Cicéron, par exemple, puisqu'il est cité toujours Cicéron aussi, Cicéron a dit que le droit naturel est ce que l'opinion ne crée pas, c'est déjà beaucoup par rapport à la mémoire, mais c'est une forme qui est inhérente en nous-mêmes, ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Mais Albert le Grand dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, inhérente en nous-mêmes, voyez-vous ? Rien que poser la question de ce qu'on répète depuis des siècles est très important. Ne pas croire nécessairement qu'un axiome est un axiome, tous les principes premiers sont des axiomes. La connaissance de ces principes, attention, dit-il, la connaissance de ces principes est lentement déduite de la connaissance des extrémités, ex notitia terminorum. Donc, faites extrêmement attention de tout ce dont plus tard Descartes lui-même dira « Je ne prends pour vrai que ce qui me paraît évident ». Savoir très bien aussi définir, et ça c'est très important pour comprendre ce qui se passera au temps de Galilée et de Giordano Bruno, si Albert le Grand avait été là, peut-être aurait-il eu une certaine influence. Il fait une très grande différence entre ce que l'on voit avec un certain instrument et ce que l'on voit avec un autre instrument. Et il fait simplement la différence entre il montre, là, en chasseur, que même l'acuité des yeux nous fait voir des choses différentes selon notre âge ou selon notre angle de vision. Très intéressant aussi... Il dit que ce qui génère l'opinion, finalement, c'est bien souvent la conclusion des lois. On a fait une loi il y a 3 siècles ou 30 ans, et puis ça a finalement généré une certaine opinion. Très intéressant aussi ce qu'il raconte sur les probabilités. Il n'a pas le sens des probabilités comme on commence à les avoir dans le monde judéo-arabe, puisque... Vous savez que beaucoup de juifs écrivent en arabe à cette époque-là. Il n'a pas ce sens-là encore, lui. Seulement, ce qu'il dit très, très justement, c'est que quand on lance une probabilité, c'est-à-dire ou même une suspicion, ça génère une opinion et que cette opinion elle-même, il y a une dynamique de l'opinion. En termes de morale, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a une liaison entre la science et la morale, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a toujours une marge d'incertitude, souvent presque toujours une marge d'incertitude en morale, surtout sur des problèmes nouveaux, et que cette marge d'incertitude doit nous rendre d'autant plus stricts sur quelques principes, mais qui sont les principes révélés, c'est-à-dire qu'il dit « tiens-toi au décalogue ». Tiens-toi au serment sur la montagne. Il dit par exemple, il n'est pas licite de dire tu aimeras ton prochain dans la limite du droit naturel. Vous comprenez ? C'est-à-dire que dans la limite d'une pensée métaphysique. C'est-à-dire qu'il pense que la métaphysique ne doit pas, j'allais dire, nous occulter le fait que bien des principes ou bien des axiomes peuvent être de simples archétypes. Quant à Roger Bacon, vraiment ça vaut la peine de le lire, malheureusement il est en latin encore, mais il n'est pas traduit en français. Les églises sont fantastiques, elles ne mettent pas à l'index certains livres, mais elles ne les traduisent pas. Alors c'est une façon de les mettre en enfer. Il fait l'éloge, par exemple, de ce Pierre de Maricourt, dont je vous ai dit un petit mot en passant, et qui était un ingénieur militaire que l'on retrouvera dans les armées de Charles d'Anjou. Eh bien, il montre que cet homme est passé maître en expérimentation. Il sait tout l'art de la guerre, la fabrication des armes et sur la chasse. Il a vu de près l'agriculture, l'arpentage, le travail du fermier. Il a travaillé à construire des miroirs qui pourraient produire des combustions à distance. Et un certain nombre de problèmes que les Latins n'ont jamais résolus. Ce que Roger Bacon reproche beaucoup en latin, c'est de ne parler que latin, d'être très mauvais linguiste. Il ne parle pas grec, il ne parle pas... ils ne traduisent pas de l'arabe, ou bien quand ils traduisent de l'arabe, ils sont uniquement linguistes et pas scientifiques. Quand un certain Guillaume de Merbeck va traduire Aristote, il fera des fautes énormes parce qu'il n'a pas l'ombre d'une formation scientifique. Donc, vous voyez des formes de pensée, je suis obligée de passer, mais... Après tout, je vous conseille de lire les livres que j'ai faits parce que c'est vraiment, on s'amuse énormément avec ce que dit Roger Bacon. Il a des invectives extraordinaires pour mais un langage d'une très grande puissance, mais il a aussi des phrases d'une grande profondeur. Et la vérité, dit-il, ne doit pas être condamnée pour la part d'ignorance qu'elle peut porter en germe, ni l'utilité pour la part de malice qu'elle peut aussi porter en germe, quelle que soit la vigueur de ces germes. Donc vous voyez, on disait ça dans le Paris dans le Paris de notre XIIIe siècle. Alors pourquoi est-ce qu'il y a-t-il eu cette fermeture? Et pourquoi a-t-on... Oh, tout de même, je ne résiste pas à vous donner encore quelque chose de Roger Bacon. Je vous ai dit que Aristote séparait la matière et la forme. Et lui a une intuition très extraordinaire et très moderne qui est tout à fait dans le sens, qui va tout à fait dans le sens de la biologie moléculaire actuellement. Il dit « La matière, on est au XIIIe siècle, n'est pas ce que la plupart des professeurs de philosophie maintiennent trop vite qu'elle est. La différence entre un âne et un cheval n'est pas seulement une différence de forme, c'est une différence de matière. Il faut parler de forme et de matière dans l'immense pluralité de l'un et de l'autre. Il y a des hiérarchies dans les matières comme il y a des hiérarchies dans les formes. » Et il montre qu'une forme, plutôt qu'une matière, peut donner une sorte de message à la forme. Et ça, quand on voit qu'il y a des protéines qui ordonnent des homéogènes qui ordonnent certaines choses en biologie moléculaire, on voit que c'est des intuitions extrêmement modernes. Eh bien, pourquoi Thomas d'Aquin a-t-il finalement... j'allais dire fermer les verrous plutôt qu'ouvrir les portes. On voit d'abord que c'était un homme d'une grande, un très grand attachement à l'Église, une Église qui est en difficulté à cette époque-là, avec des croisades de plus en plus malheureuses, avec des mouvements souvent venus du monde franciscain, des spirituels qui sont quelquefois anarchiques. N'oublions pas aussi que l'année 1244 dont je vous ai parlé, c'est celle aussi de la prise de Montségur. avec les hérésies qui se transmettent en Italie. En 1263, vous voyez-vous, 20 ans plus tard, Thomas d'Aquin écrit une somme contre les gentils, c'est-à-dire contre les Arabes, qui est une commande du pape. Et là, voyez-vous, ce qui est très intéressant, c'est que sur le plan philosophique, il décide de se placer sur le terrain de l'adversaire, c'est-à-dire sur le terrain de la scolastique de l'adversaire. Il le dit. Il faut parler entre sages. Il est capital de parler entre sages. Et compte tenu de ce que je vous ai dit sur les emprunts communs que le monde latin, le monde de l'islam et le monde de des communautés juives ont en commun de scolastique, d'origine hellénistique, ces sages s'entendent très bien. Il parle de l'office du sage. Il est très important de distinguer le sage du peuple. Sur ce plan-là, du reste, et Averroès, et Bacon, et Thomas d'Aquin sont tout à fait d'accord. Le sage, c'est l'architecte du monde. C'est la cité idéale, n'est-ce pas? Il est tout à fait dans cet esprit qui est relativement platonicien. Mais il y a une certaine... On sent une certaine naïveté du sage quand on le lit. C'est-à-dire qu'il pense que ce qui est décidé entre sages va être quelque chose qui va être accepté par le peuple. Il y a d'une part les profondas, c'est-à-dire la philosophie, et d'autre part les apertas, c'est-à-dire ce qu'on montre sur les vitraux, la religion pour le peuple. Et cela, c'est tout à fait lié à la pensée de Thomas d'Aquin. D'autre part, Thomas d'Aquin emploie beaucoup les mots qui ferment ce qu'il y sait latin, il va de soi que. Telle définition n'est rien que, ni le quod, ni l'allude, ou bien le gar grec. C'est automatique, vous comprenez. Donc c'est imparable, mais si les prémices sont fausses, ça peut être faux. Voilà, c'est ça le problème. Par exemple, sur la matière, au même moment que Roger Bacon, alors que Roger Bacon a ses intuitions dont je vous parlais, lui, Thomas d'Aquin, dit cela: la matière n'est pas un principe d'action, Dieu n'est pas matière, Dieu ne peut pas être matière. Or, dans l'enseignement du philosophe, c'est-à-dire Aristote, efficience et matière ne peuvent coïncider dans le même sujet. C'est-à-dire que, c'est une répétition, il répète. De plus grave encore, et ça bloque tout esprit scientifique, à mon sens, c'est un blocage scientifique annoncé. Il faut observer que l'étude d'une science spéculative ne s'étend pas plus loin que la portée de ses principes. C'est-à-dire, vous voyez, c'est entièrement déductif. C'est-à-dire que nous avons, à l'intérieur du trivium et du quadrivium, une science qui est en tuyau d'orgue. Et une science où il ne peut pas y avoir d'interdisciplinarité, parce que de nouveau, on irait contre l'ordre. Je le répète parce que ça vaut la peine de réfléchir. Il faut observer que l'étude d'une science spéculative ne s'étend pas plus loin que la portée de ses principes. C'est-à-dire qu'il confond l'étude, justement, et la science. C'est confondre la scolarité et l'esprit de recherche. Ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, dans les principes d'une science, la science tout entière est virtuellement connue. Il ne voit pas du tout ce que peut apporter de bouleversant un outil nouveau, l'expérimentation, l'imprévisibilité d'une recherche expérimentale avec des outils nouveaux. Quand Galilée, avec son télescope, va vérifier les intuitions de Copernic, ce sera bien un outil nouveau. C'est donc les impossibles. Il y a des impossibilias, si je puis dire, de l'intelligence. Alors pourquoi est-ce que Thomas d'Aquin a-t-il été si rigide? Là encore, franchement, ça vaut la peine de passer du temps à réfléchir dessus et à lire. C'est à cause de ce qui se passe dans une autre rue de Paris où je vous conseille d'aller, qui s'appelle la rue Garlande. La rue Garlande, c'est celle des maîtres qui sont très aristotéliciens, mais alors dans le genre, c'est presque Aristote dans l'esprit d'Ada. Il cherche des absurdités dans Aristote, vous comprenez? Et là, on voit dans, par exemple, je ne sais pas, oui, on va s'arrêter. Donc, c'est vrai que il y a eu un moment d'excès de virtualité à propos d'Aristote, et Thomas d'Aquin a essayé de canaliser cet esprit qui se développait dans le Paris de cette époque-là. Et je voudrais terminer par une très belle phrase d'Albert Le Grand qui nous montre que la science est toujours en marche, que nous sommes toujours à l'aube de la science et pas au sommet. De même que la capacité de l'enfant à connaître réside dans sa capacité à tenir sa plume sans précaution, sans aller jusqu'au bout, ainsi est notre science, dont la première visée serait d'être universelle.
Merci d'avoir été un peu long, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous avez comme curiosité supplémentaire ou question que vous aimeriez poser?
Alors, je vais faire un petit peu de pub, voilà, pour le bouquin. Vous verrez tout cela développé. Pardon. Comment?
Michel, oui.
Oui, c'est ça.
Ça a un rapport avec ça?
Oui, c'est ça. Justement, mon livre est sur la loi naturelle.
Alors, 1231, vous avez promis de me dire pourquoi c'était une date...
voilà, je l'ai laissé en... Alors, 1231, c'est une date très intéressante parce que, à l'occasion d'une bagarre entre étudiants, c'est Blanche de Castille qui est régente à ce moment-là, eh bien, elle fait appel au pape pour arbitrage. C'est une aubaine sensationnelle pour le pape qui décide à ce moment-là de donner son patronage à l'Université de Paris, moyennant une certaine surveillance. Alors, à ce moment-là, le grand problème est de savoir quelle place on va donner à Aristote dans les études à l'Université de Paris. Aristote, on l'accepte à ce moment-là dans les premières études, c'est-à-dire la physique, puisque il est tout de même, par son organon, extrêmement pratique pour les catégories, mais on le refuse absolument dans sa métaphysique. Alors, le pape qui est à ce moment-là, Grégoire IX, un pape très intelligent, un peu côteleux, très côteleux même, décide d'interdire, mais de dire que cette interdiction sera peut-être revue. Et il crée une commission d'enquête pour censurer Aristote sur les domaines où Aristote n'est pas conforme à la doctrine chrétienne. Alors cette commission d'enquête, qui est présidée du reste par un certain Guillaume d'Auxerre, qui est bien sûr l'ennemi mortel du Guillaume d'Auvergne dont je vous ai parlé, évidemment n'aboutira jamais. Ce qui fait que pendant tout le XIIIe siècle, l'étude d'Aristote sera à la fois permise et pas permise, vous comprenez, à Paris. C'est-à-dire qu'elle est théoriquement interdite, c'est-à-dire que si on va trop loin, on peut censurer ceux qui vont trop loin, mais elle est, j'allais dire, en attente de permission. Donc, en réalité, c'est un système extrêmement bancal. Extrêmement bancal, mais très intelligent, finalement, du point de vue de l'autorité. Vous comprenez ? Donc, 1231, c'est à partir de ce moment-là que la lecture d'Aristote se développe beaucoup dans les universités, à l'Université de Paris. Il y a eu une première interdiction en 1215, qui était une interdiction liée au diocèse de Sens, puisque Paris dépendait de Sens, et qui a été reprise par le pape, qui n'a pas été démentie par le pape, mais le pape a dit que la commission d'enquête pouvait faire évoluer les choses. Donc l'Université de Paris se charge de faire évoluer les choses à ce moment-là. Et de ce point de vue-là, Thomas d'Aquin est très, j'allais dire, est courageux, parce qu'il ne se gêne pas du tout pour citer, reciter, re-reciter Thomas d'Aquin. L'ennui, c'est qu'il le réécrit. En général, j'ai travaillé avec une femme chercheur très intéressante de la faculté du Sauchoir des Dominicains, qui montre à quel point Thomas d'Aquin réécrit Aristote. Alors elle trouve ça très bien, mais plus tard, on verra un Érasme, par exemple, ou on verra un Lefèvre d'Étaples trouver que c'est plus intéressant de restituer à Aristote le véritable texte d'Aristote.
Mais la question qu'on a envie de vous poser, c'est la loi naturelle, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? C'est ça la question.
Oui.
Qu'est-ce qu'on donne ? Il y a la propre de l'activité scientifique, c'est de trouver éventuellement de la régularité, donc ce qu'on appelle des lois, qui ne sont pas les lois de la nature, mais de la perception qu'on en a. Bon, voilà. Mais la loi naturelle, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Et quel rôle ça joue effectivement dans la théologie, dans le monde catholique par exemple, et qu'est-ce que ça a comme signification opératoire par rapport au problème d'éthique contemporaine?
Voilà. Eh bien, écoutez, de ce point de vue-là, mon livre est assez destructeur. Bon. C'est-à-dire que j'en arrive, après avoir montré l'origine de la loi naturelle, en particulier la permanence ou la fascination pour ce qui faisait la cohérence de l'Empire romain et de l'Empire élargi, de l'Empire méditerranéen, j'en suis venue, après avoir vraiment gratté, si je puis dire, gratté, et je vous assure que c'est beaucoup, beaucoup de nuits blanches, le texte de Thomas d'Aquin, j'en arrive à l'idée que cette fameuse loi naturelle est quand même un instrument, avant tout un instrument de pouvoir. Les pouvoirs se la sont disputés. Le problème était de savoir si c'était les papes ou si c'était les empereurs qui avaient le mandat du ciel. Maintenant, je vois que cette loi naturelle par Thomas d'Aquin est sans arrêt prônée comme quelque chose de supérieur, de lié à la loi éternelle, laquelle est on sort de notre sujet de ce soir, mais à la loi éternelle, laquelle est très inspirée de saint Augustin. Donc, on en revient sans arrêt à la loi éternelle est au-dessus de tout, la loi naturelle est au-dessus de tout, mais je dis et le contenu, et le contenu, et le contenu de question en question, et je vois que le contenu est vide. Pas toujours vide, il est vide dès lors qu'il ne se rapporte pas à l'Évangile. C'est-à-dire que ce vide devient un plein dès lors que Thomas d'Aquin, sur certains points, Alors se réfère directement à l'évangile ou au décalogue. Mais alors je dis pourquoi ne pas se référer directement à l'évangile ou au décalogue. Donc je termine mon livre en disant si l'on est chrétien, c'est par l'évangile et le décalogue qu'il faut commencer. Ça n'est pas par la loi naturelle. La loi naturelle est une résurgence, une fausse bouée de sauvetage, me semble-t-il. Je pense objectivement que l'Église catholique se trompe quand elle, en difficulté, il faut bien dire, se trompe et fait fausse route quand elle se raccroche à une loi naturelle plutôt que au décalogue et à l'évangile. Et je pense que c'est très grave, d'une certaine façon, compte tenu malgré tout de son influence, pour l'ensemble du monde chrétien, dans ce sens que je pense que nous ne sommes crédibles en tant que chrétiens que quand nous sommes très fermes sur le sermon sur la montagne et sur les béatitudes et le décalogue. Nous ne sommes, même aux yeux des incroyants, je pense que si on pouvait, on sort du cadre du titre d'aujourd'hui, mais si on pouvait simplement faire comprendre à ceux qui ne croient pas que les évangiles et le décalogue sont des grands textes de l'humanité, ce serait déjà très important. Parce que, nom d'une pipe, le médecin ou le chercheur que j'ai vu, que j'ai été devant un problème évident ou majeur comme la fécondation in vitro, comme le tanusie, ne va pas poser la question de la loi naturelle. Ça ne lui donnera rien, mais rien de rien. Tu ne tueras pas, c'est des choses très... que personnellement je crois révélées. Je fais une différence entre la révélation et l'induction, c'est autre chose. Et le dévoilement, la science dévoile. Je fais une différence entre la révélation et le dévoilement.
Être une conclusion extraordinaire, puisqu'on a pris un peu plus de temps que d'habitude. En tout cas, merci pour avoir fait surgir, je dirais, à la fois une époque et puis des personnages qu'on aimerait mieux connaître.
Et des problèmes.
Et des problèmes, oui. Voilà, merci beaucoup. Merci.